Oui, donc ce qu'on a lu tantôt, on a vu qu'il y avait un conflit qui a éclaté à Antioche. On va lire le reste de l'histoire un peu dans quelques minutes. Donc, il y a un mythe qui dit que dans une église de rêve, il n'y a jamais de conflit. Il peut m'arriver, moi, de rêver à une église où il n'y a jamais de conflit, où tout le monde s'entend tout le temps, surtout avec moi. C'est un rêve que j'ai et malheureusement, l'acte 15 nous montre que c'est une illusion. Dans notre parcours dans Actes jusqu'à présent, on a vu un ou deux conflits à Jérusalem, dont celui avec Saphira et Ananias. On a vu un conflit dans la mission de Samarie. Dans Acte 15 à Antioche, qui est notre église modèle, dans Acte 15, il y a deux conflits dans le même chapitre, dont un, c'est entre les deux poids lourds, Barnabas et Paul, concernant la stratégie de mission. On n'en parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du premier conflit qui est au début du chapitre et dont on a lu un extrait tantôt avec Myriam. C'est la question doctrinale, le rapport entre l'Évangile et la loi juive. Puis ça concerne bien sûr les juifs et les non-juifs. Non, ouais, ça c'est pour dire que je suis triste par rapport à mon illusion. Oui, c'est vrai, la photo n'est pas représentative. Je suis beaucoup plus jeune que cette personne, ouais, dans la réalité. La marque d'une église en santé, la marque d'une église transformationnelle, bon, ce n'est pas qu'elle n'a jamais de conflit. Au contraire, elle apprend à éviter les conflits inutiles, c'est vrai. Elle apprend à bien gérer les conflits qu'il faut gérer, mais qui sont secondaires. Et puis, elle apprend à identifier les conflits qui sont nécessaires parce qu'ils touchent à quelque chose de vital. Identifier pour ensuite vraiment y mettre toute leur attention. Et c'est ce que l'Église d'Antioche fait ici. Dans notre lecture, donc, on voit que pour eux, ce qui se passe ici, c'est quelque chose de vital, quelque chose qui touche à l'essentiel. On ne peut pas continuer sans régler ça. Et on va lire la suite de l'histoire. Donc, vous vous souvenez, Myriam a lu que il y en a qui sont arrivés à Jérusalem, ont proposé une nouvelle doctrine. Ça a fait une dispute. Ils ont amené la question devant le concile de tous les grands responsables à Jérusalem et on reprend ici la lecture au moment où Pierre, qui a dit ce qu'il avait à dire et qu'on a entendu, s'assoit. Et maintenant, je continue la lecture. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Je vais dire parfois païens, c'est le mot ethnos en grec, qui ressemble à ethnie en français, et c'est parfois traduit païen, parfois traduit non-juif. Des fois, on dit même les gentils. Ça veut dire la même chose. Bon, lorsqu'ils eurent fini de parler, verset 13, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » Nation, c'est encore un autre mot qui traduit ethnos. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il y est écrit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. Et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi, et là c'est Jacques qui interprète et qui parle, c'est pourquoi Je pense qu'on ne doit pas créer des difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabbas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message. Prions. Seigneur, c'est ta parole qui compte. Seigneur, fais-la entrer dans nos cœurs. Au nom de Christ. Amen. Donc, on a dit que les frères et sœurs à Antioche avaient identifié un problème vital à cause de la nouvelle doctrine enseignée. On va regarder ça parce que ça va nous amener au cœur de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Et donc, d'abord, on va voir, donc, on va faire un survol du conflit. Deuxièmement, on va voir ce que Jacques dit. Après ça, on va voir ce que Pierre a dit, même s'ils ont parlé dans l'ordre inverse. Et tout ça pour nous ramener au cœur de l'Évangile. Parce que c'est important pour nous de le connaître suffisamment bien pour être capable de dire, OK, ce qui est vital, c'est ceci. Ça va? Alors, description du conflit. Plutôt cette année, on a fait un portrait de l'Église d'Antioche, un portrait assez élogieux et encourageant de la puissance de l'Évangile dans cette ville. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de certaines choses qu'on a vues qui se passaient dans cette ville et qui étaient encourageantes? C'était? Ils étaient unis, oui. Quoi d'autre? Le Saint-Esprit s'exprimait. Il laissait le Saint-Esprit s'exprimer et il le faisait. Et ça, c'est bien, oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Beaucoup de partage, beaucoup de vie et d'interrelations et d'interactions. Je vais vous rappeler aussi quelques autres choses qu'on a vues. Beaucoup de conversions. Une nouvelle population qui commence à venir à Christ, les non-juifs. D'une manière, ils sont nombreux, là. C'est comme un fleuve. On voit que les gens sont formés comme disciples. On voit qu'il y a des programmes d'enseignement qui sont élaborés. On voit qu'il y a des équipes missionnaires qui sont formées et envoyées. On voit aussi que dans la ville, ils ont une réputation. On les appelle les chrétiens, qui était un nouveau mot à l'époque. On voit la multiculturalité, hein, des gens de différents pays qui travaillent ensemble. Et c'est pour ça que le verset 1 vient comme un peu un contraste ou un problème. Mais voici que quelques hommes venus de Judée, donc de l'Église de Jérusalem ou de son entourage, enseignaient les frères et sœurs en disant, et il y a une Bible, la Tope, qui traduit « endoctrinaient ». C'est qui est une traduction intéressante du mot, avec un peu l'intention de ramasser du monde pour leur camp. Quelques hommes venus de Judée endoctrinaient ou enseignaient les frères à Antioche en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Bon, alors c'est assez radical comme douche froide, et on voit dans l'histoire que la réaction de Paul et de Barnabas est vive. Ils sont vraiment prêts à se disputer publiquement avec ces prédicateurs. Ces prédicateurs qui s'associent à Jésus-Christ, mais qui enseignent quelque chose qui semble contraire à ce que Paul et Barnabas prêchent. et pas seulement eux. Ce qui est intéressant, c'est que on a ici une description par Luc de ce qui se passe, et donc Paul est un des personnages de l'histoire, mais Paul lui-même, dans une de ses lettres, l'Épître aux Galates, il va raconter en ses propres mots la même histoire. Et vous pouvez la lire dans Galates chapitre 2. C'est vraiment intéressant. Ce que Paul dit, il dit en gros la même chose, mais il ajoute, il y a une des fois où ces prédicateurs-là sont manqués, puis Pierre, l'apôtre Pierre était là, et Pierre a manqué de fermeté. C'est ça que Paul dit. Je radoucis un peu ses mots. Il a vraiment manqué de fermeté envers ces hommes-là qui disaient que le salut, ce n'est pas juste par Jésus, mais c'est par Jésus et l'obéissance à la loi juive. Donc, Paul dit en Galates 2 qu'il a décidé de confronter Pierre publiquement dans l'église d'Antioche. Est-ce qu'on se rend compte du sérieux de l'affaire? Si Paul se trompe, c'est vraiment grave, qu'est-ce qu'il fait? Moi, en tout cas, et à toute proportion gardée, je suis un peu, dans un certain sens, le chef des anciens. Donc, si quelqu'un se levait publiquement ce matin et puis disait, « Je te répudie, Marc, au nom du Seigneur Jésus, ton évangile, là, il est plein d'hypocrisie. Tout ce que je peux vous dire, assurez-vous d'être sûr de votre affaire, parce que ça va faire du gravuge. Vous avez le droit de le faire, mais faut être sûr de votre affaire. » Et vraiment, Paul, ici, a fait quelque chose. Il dit, il a prouvé que Pierre était hypocrite. Parce que d'un côté, Pierre croyait et prêchait qu'on était sauvé par Jésus seul. Mais quand ces prédicateurs-là sont venus, son comportement était contraire, parce qu'eux disaient, nous, pour rester purs par rapport à la loi, on ne peut pas manger avec les frères qui ne sont pas encore circoncis. Puis Pierre, pour garder la paix, est allé avec eux, comme quoi qu'il passait le message qu'il était d'accord avec eux. Et vous allez voir comment Paul le reprend publiquement, pas pour l'humilier lui, mais pour protéger l'Évangile. Et voici comment il décrit la chose. Paul écrit aux Galates, en parlant à d'autres chrétiens non-juifs, et il parle ici des prédicateurs, pas tellement de Pierre, mais Pierre pas indirectement, il parle de ces prédicateurs-là, il dit, « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous, ou pour vous, pardon. » Hein, c'est tellement beau, ça. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. L'Évangile, pour Paul, c'est comme un nouveau médicament hyper précieux dont il faut préserver la pureté pour que les malades puissent être guéris. Et on va se battre pour que personne ne mélange de l'impureté à ce médicament. Amen! Hein, il y a des spécialistes du contrôle de qualité ici. Je pense à toi, je pense à Jean-Pierre. Et c'est très, très important pour Paul ici. Et c'est écrit pour que nous prenions exemple. Nous voyons ici une raison valable d'entrer même dans un conflit. La vérité de l'Évangile. On voit Paul et Barnabas ailleurs prêcher la paix, prêcher la tolérance, mais ici, non. Ils sont prêts à se battre. Peut-être pas physiquement, bien que quelqu'un comme Paul aurait peut-être eu le goût, mais il s'est retenu, mais avec toute sa passion verbale, ça, j'en suis sûr, et on le voit. Mais toi, es-tu prêt à prendre position pour l'Évangile dans ta vie? Est-ce que l'Évangile habite en toi comme une passion, comme une conviction? Mon souhait pour l'Oasis, c'est que ça continue à être, que ça devienne encore plus une église où la vérité de l'Évangile est claire, qu'elle est annoncée avec passion, puis qu'elle est défendue lorsque c'est nécessaire. Puis je prie que ça soit le cas dans ta vie aussi, et dans ma vie aussi. Amen. Mais d'abord, répondons à la question, c'est quoi l'Évangile? Et c'est pour ça que je veux qu'on regarde les paroles de Jacques à la table de négociation ou de décision, et les paroles de Pierre aussi. Ils vont nous aider à voir deux aspects vraiment différents et importants de ce qu'est l'Évangile. Premièrement, Jacques, pas l'apôtre, je crois que Jacques l'apôtre a déjà été assassiné. Et ici, il s'agit de l'autre Jacques, le frère de Jésus, mais qui est devenu un responsable de l'Église de Jérusalem. D'abord, parlons de Jacques, sa personnalité, ou un aspect, une Église va bien avancer quand elle a des leaders comme Jacques, qui sont sages et qui sont capables, dans une situation de conflit, de dire, bon, OK, tout le monde, on va se réunir, écoutons ce que les gens ont à dire, puis quand on a fait le tour de la question, bon, moi, je vais me prononcer. Puis c'est ce que Jacques fait ici, il écoute tout le monde, après ça, il est dit qu'il se lève, et puis il dit, écoutez-moi, j'ai quelque chose à proposer. Et ça, je trouve que, des fois dans la vie, qui que l'on soit, des fois, on est appelé à exercer du leadership comme ça. Souvent, il faut écouter. Des fois, il faut se lever et dire, « J'ai une suggestion. » On peut se tromper aussi, des fois. Et quelqu'un d'autre va se lever et dire, « Non, moi, j'ai une autre suggestion encore meilleure. » Mais il faut avoir le courage de s'exprimer et des fois de parler pour le groupe. Et c'est ce que Jacques fait ici. Et il dit, faisons attention, mes frères. C'est clair que Dieu est à l'œuvre dans l'Église d'Antioche, d'après ce qu'on entend de Barnabas et de Paul. Moi, j'ai lu dans l'Ancien Testament, j'ai lu dans les prophètes qu'il va y avoir un moment dans l'histoire où le plan de Dieu va exploser, va aller dans le monde entier, puis chaque être humain va être invité. Et il cite la parole en question, et c'est dans le prophète Amos, et la parole dit ceci. Donc, il y a une petite complication, c'est que Jacques cite dans la traduction grecque, il y a certaines différences par rapport à l'hébreu. Dans votre Bible, vous avez la traduction directe de l'hébreu au français, vous verrez qu'il y aura quelques petites différences, mais voici comment Jacques interprète Amos ici. « Après cela, et c'est l'Éternel qui parle, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai, alors le reste des hommes, donc les hommes à l'extérieur d'Israël, à l'extérieur de la tente de David, alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi toutes les nations appelées de mon nom vont être appelés. » Et c'est le Seigneur qui dit ça. C'est le Seigneur qui fait tout cela. Amen. Amen. C'est Amos, le prophète, qui a prédit ça longtemps avant la naissance de Jésus. Et c'est intéressant, Jacques, c'est le plus juif des juifs, Jacques. Et Paul va parfois dire des paroles un peu dures par rapport à Jacques dans ses épîtres. Mais Jacques lui-même dit, « OK, là, je connais la Bible et puis il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ici. » Parce que là, c'est le moment de l'histoire où les païens entrent en grand nombre. Dans la tente de David ou grâce à la tente de David. La tente de David, c'est quoi? C'est une parole imagée pour parler de la royauté. La royauté davidique avait été coupée à l'époque des Babyloniens et... Mais Jésus est devenu, après une longue interruption, la restauration de la royauté davidique. Et il est devenu le roi, le descendant de David, qui est roi et messie pour toujours. Et ça, Jacques le savait, mais ce qu'il voit, c'est ce qui se passe à Antioche, c'est pas mauvais, c'est en fait super bien. Quand on connaît la Bible, c'est vraiment quelque chose de divin qui se passe. Et j'aimerais... poursuivre en disant que Jacques est en train de voir ici que le plan de salut de Dieu, c'est pour tous les humains. Amen. Le plan de salut pour Dieu, c'est pour tous les peuples. Amen. Est-ce que les Ivoiriens sont exclus? Bon, oui. Et, Nicole, est-ce que les Congolais sont exclus? Non, non. Et les Québécois, peut-être? Non. OK. C'est pour tous les humains. Et puis, si tu es invité à recevoir le salut par Jésus, bien, tu es aussi invité à faire partie du peuple de Dieu. Amen. Donc, pas de deuxième zone et de première zone. Pas les Juifs chrétiens qui, eux, mangent à la table d'honneur et les autres qui doivent manger à part parce qu'ils sont quand même un peu impurs. Non, c'est fini, ça. Il y a un seul peuple de Dieu. Et c'est ce que Jacques voit parce qu'il connaît les Écritures. Donc, la dimension universelle de l'Évangile est ce que Jacques met en valeur à la table de discussion ici. Et il va dire, rendons l'accès le plus simple possible. Si c'est ça, hein, Dieu fait un party puis il veut inviter tout le monde. Bien, la logique, dit Jacques, rendons l'accès le plus simple possible, mais sans dénaturer quand même l'expérience. Donc, ce que Jacques propose, et c'est ça a été adopté, c'est trois domaines de règlement minimaux, pour non pas pour accéder au salut, mais pour t'aider dans ta croissance spirituelle, parce qu'on parle de la question de l'immoralité sexuelle. Jacques propose ça, puis ça va rester pour tous les temps, vraiment, même aujourd'hui, on va dire, il faut s'abstenir des pratiques sexuelles qui sont en dehors du mariage, parce qu'au fond, et Paul va l'expliquer ailleurs, et Jésus aussi, ça va nuire à ta relation avec Christ. Mais les deux autres domaines, c'est-à-dire l'idolâtrie, et surtout, en fait, surtout le troisième, la manière de préparer les aliments, ça, c'est plutôt pour ne pas poser d'obstacles à d'autres invités. Hein? Il explique, bon, nous, on fait de l'évangélisation parmi les Juifs, et eux, ils ne peuvent juste pas tolérer qu'il y en a qui mangent du porc ou qui mangent du sang, ils ne vont juste pas comprendre le message. Alors, abstenez-vous pour leur intérêt. Amen. Les missionnaires font comme cela dans les pays musulmans, par exemple. Il y a des femmes qui prêchent l'Évangile dans des milieux musulmans qui ne vont pas porter le voile dans leur pays d'origine, mais là-bas, vont porter le voile et des vêtements longs pour ne pas poser d'obstacle à l'Évangile. Parce que Dieu invite tout le monde au party. On se comprend? OK. Alors, Jacques nous apprend beaucoup de choses ici. Quelles seraient des applications pour moi ou pour toi? Alors, premièrement, je suis interpellé par Jacques à devenir un étudiant de la parole de Dieu, un lecteur de la Bible. Et c'est pour toute la vie, ça. Jacques connaissait les prophètes et il connaissait toute la Bible. Et puis, ça lui permettait d'être utile pour l'Église dans les situations, par exemple, de conflit, pour pouvoir dire, « Ah, mais là, ce qui se passe ici, je vois que ça a un lien avec un texte biblique. Je vois que Dieu est en train de faire une connexion dans ma tête et dans le monde entre ce qu'il a dit dans la parole et ce qui se passe ici. Et il peut parler au nom de Dieu grâce aux Écritures. Tu peux le faire aussi. » Dans l'attitude de Jacques, deuxièmement, le peuple de Dieu n'existe pas pour lui-même, mais pour faire connaître Dieu aux hommes. Amen. Je vais relire ça. Le peuple de Dieu n'existe pas pour lui-même, c'est-à-dire pour le bienfait du peuple de Dieu seulement, mais pour faire connaître Dieu aux autres. Jacques se souvient que Dieu a choisi une race spécifique, une descendance charnelle spécifique, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, pour être sa lumière dans le monde. Il leur a donné un temple pour être le témoignage de Dieu dans le monde, pour toutes les nations. Mais deux fois, Dieu a permis que le temple soit détruit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu de vue ça, qu'ils se sont dit, c'est pour nous ça, c'est qu'on est les préférés de Dieu, puis il faut garder les impurs dehors. Non, si on est appelé, c'est pas juste pour nous, c'est pour les autres. Et c'est pour ça que je t'invite à méditer à cette autre formulation qui est pour nous aujourd'hui. Enfin, je vous la propose. Ma relation personnelle avec Dieu par Jésus, c'est un bienfait que je ne peux conserver qu'en le partageant avec les autres. Ma relation personnelle avec Dieu par Jésus, c'est un bienfait que je ne peux conserver qu'en le partageant avec les autres. Bon, je ne suis pas en train de dire le salut par l'évangélisation, non. Je suis en train de dire, si tu perds de vue que tu es sauvé pour partager la bonne nouvelle aussi à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, ça va dénaturer l'évangile dans ton cœur. Il va perdre son goût divin. On se comprend? On se comprend. Et c'est ce que Jacques comprend ici, et c'est merveilleux ce qu'il dit. Et donc, méditons ces réalités, la parole, comment est-ce que je peux, moi, mieux connaître la parole? Peut-être que c'est les mardis soirs avec nous, dans notre parcours, où on fait tous les textes clés de la Bible. Et je peux aussi vous proposer d'autres possibilités pour la lecture à la maison et des cours. Le peuple de Dieu n'existe pas pour lui-même, mais pour les autres, je dois partager ma foi. Peut-être aussi cette question que je vous laisse, avec qui est-ce que je vais partager ma foi cette semaine? Parlons un peu de Pierre maintenant. Pierre, lui, montre un autre aspect de ce qui est vital dans l'Évangile. À un moment donné, en parlant des Juifs, il les appelle « nous », et puis les autres, il appelle « eux », les païens, il dit ceci. « C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. » OK? Le salut en Jésus, c'est pareil pour tous. C'était moins clair au début. C'est devenu encore plus clair quand des gens qui étaient des pécheurs parmi les païens pouvaient rentrer dans le peuple de Dieu juste en croyant en Jésus. C'est devenu archi clair, même pour des gens comme Jacques et Pierre. Ce qui est devenu la prédication essentielle, c'est que Jésus est suffisant pour te sauver. Jésus est suffisant pour te sauver et il est suffisant de manière exclusive pour te sauver. Je ne sais pas si ça, c'est deux mots importants. Il est suffisant, puis il est suffisant de manière exclusive pour te sauver. Autrement dit, ton salut, c'est en croyant en Jésus, puis c'est tout. Jésus est Jésus seul. OK? C'est très, très important. C'est en gros ce que Pierre est en train de dire ici. Ne laisse personne te dire, ma sœur, mon frère, que pour être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité, tu as besoin non seulement de Jésus, mais aussi d'obéir à certains règlements, d'avoir une vie parfaite, ou d'avoir une certaine ethnicité, ou d'avoir mis de l'ordre parfait dans ta vie maritale ou dans ta vie sexuelle. Je donne des exemples parmi d'autres. Ou que tu as besoin d'une série de sacrements. Ou que tu as besoin d'un niveau de culture ou d'éducation ou de revenus. Ou que sais-je. C'est l'essentiel de ce que Pierre est en train de dire ici. C'est Jésus et Jésus seul. Amen? OK? Parce que toutes ces autres choses dont je parle, c'est des choses qui sont bonnes et que Dieu a créées. C'est Jésus en toi qui va t'aider à démêler ces choses. Une chose à la fois, d'accord? Que ce soit ta sexualité, que ce soit ton mariage, que ce soit ton éducation, que ce soit ton revenu, c'est des choses secondaires. Viens à Jésus et c'est lui qui va faire de toi un enfant de Dieu. Amen? Il va faire de toi quelqu'un de sauvé. Amen? Il va faire de toi quelqu'un qui peut célébrer son salut. Amen? Et c'est Jésus seul. Rien ne dépend de ce que toi tu peux apporter à la table quand Jésus t'appelle. La seule chose que tu apportes à la table, c'est une main vide. Une main vide qui est tendue vers Christ. Puis cette main vide-là, c'est un symbole, c'est pour la foi. C'est juste, Jésus, tu as tout fait, je t'accepte. Puis je t'invite ce matin à tendre cette main vers Christ. Je t'invite à réaliser, à reconnaître, oui, c'est toi et toi seul. Je n'étais pas capable, moi. Écoutez, Jésus est suffisant, il est suffisant de manière exclusive. Pas de mélange possible. Donc, quand on commence à mélanger, parce que c'est ce que ces prédicateurs faisaient, c'est un peu comme dire, bien, on va améliorer mon essence pour mon auto en y ajoutant de l'eau. Mais un plus avec l'essence, comme ça, c'est toujours un moins. C'est jamais un plus, c'est un moins. Puis ça donne zéro, en fait, d'ajouter de l'eau à ton essence parce que, en fait, si tu ajoutes de l'eau à ton essence, bien, ton auto ne partira plus. Donc, le plus devient un méga zéro, ça devient rien. Et donc, c'est la même chose avec l'Évangile. Soyons attentifs que nous prêchons Jésus seul et que nous vivons le Jésus seul. On chante souvent ce chant quand on annonce l'Évangile. Et c'est un vieux classique, « Tel que je suis », qui t'explique, ma sœur, mon frère, l'attitude dans laquelle tu peux venir à Dieu en Jésus, en cette période de grâce et de salut. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. Écoutez, dans la logique de l'Évangile, c'est les plus pires qui deviennent ceux qui sont les modèles. Les plus pires. Parce que, voyez, ici, pour les Juifs qui se sentaient supérieurs, c'est les païens qui se convertissent que, ah ben, OK, on comprend comment ça marche, l'Évangile. Parce que nous aussi, au fond, on est dans la loi, on la vit, on y croit, on en parle, mais nous non plus, on n'est pas capables d'être sauvés par la loi. Hein? Et donc, finalement, c'est les plus pires, pardonnez ma grammaire, c'est les plus pires qui nous aident à comprendre. Imaginez que je suis un spécialiste de marketing. Est-ce qu'il y en a ici qui travaillent dans le marketing? Tant mieux, parce que je ne sais pas si mon exemple est bon, mais en tout cas, je veux vendre un liquide vaisselle. OK? L'exemple que je vais donner dans mon annonce, c'est le plus pire des casseroles sales, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça a l'air grave, la situation. OK? Je veux vendre mon produit. Et voyez-vous, plus la casserole est sale, plus on voit la force et l'efficacité du détergent. Amen? Et donc, avec Jésus, c'est la même chose. Donc, si toi, tu sais que tu n'as rien à offrir, si toi, tu sais que « Seigneur, j'ai rien à offrir, c'est toi qui m'offres tout, je veux devenir comme toi et je veux que tu me pardonnes », eh bien, deviens cette casserole ce matin et Dieu va te transformer à son image. Ouais. Justement, aujourd'hui, nous allons passer à la célébration du Saint-Repas où Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». On célèbre ce qu'il a fait pour nous. Il est mort afin que nous puissions revivre. Il a donné son corps pour notre pardon, son sang pour notre purification. Et quand je dis notre, prends-le pour toi. C'est pour ta purification, pour ton salut. Et donc, ce matin, peut-être que tu es un chrétien qui a besoin d'être fortifié. Je crois que c'est le cas de tout le monde, mais il y en a peut-être, c'est particulièrement le cas. Eh bien, je t'invite à confesser tes fautes, à confesser ton besoin, puis à dire, « Oui, Jésus, je viens. Je vais prendre le pain. Je vais boire la coupe et te dire, Jésus, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es pleinement suffisant, puis suffisant de manière exclusive pour moi. » Peut-être que c'est nouveau pour toi, ce que je dis ce matin, et tu peux faire la même démarche. Dire, je viens à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, ma vie. À partir de ce jour, si tu le fais, tu peux toi aussi manger et boire. Et c'est une manière de dire, je m'engage. Je m'engage dans cette vie avec Jésus. S'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait exprimer sans peur que oui, Jésus, tu es numéro un pour moi. Oui, Jésus, je me confie à toi. Eh bien, je t'invite à te lever. Il y a peut-être quelqu'un que ça lui ferait du bien d'avoir l'opportunité de se lever et que vous soyez assis ou debout, je vais prier pour vous. S'il y a quelqu'un qui aimerait se lever, vous pouvez le faire maintenant.